Calad Jazz. Tout sur le jazz avec Philippe, Richard et Dédé. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Calad 100.9, soyez le bienvenu dans votre émission Calad Jazz. Je suis avec mes complices Philippe et Dédé et Françoise que je salue.
Bonjour tout le monde, bonjour Françoise, bonjour Dédé, bonjour Richard, bonjour nos auditeurs.
Voilà.
Et je auditrice, rappelle, et auditrice.
Et auditrice, bah oui, pas. Et je vous rappelle que nous vous proposons tous les troisièmes jeudis à 19h une nouvelle émission dans laquelle nous allons parler et diffuser de la musique sur le jazz. Et ce soir, nous continuons à rendre hommage à Nina Simone. Et avant d'aborder les années 60, je rappelle rapidement que dans les années 50, après quelques années de galère, enfin le succès à partir de 1958, on va dire. Et nous allons continuer sa carrière. Au côté artistique, elle va être très intense. Et ça, Philippe, tu nous en parleras dans l'émission.
On va essayer.
Voilà. Côté vie publique, elle va être très engagée en politique de défense des droits civiques. Ça, François, tu nous en parleras également.
Elle est très intense aussi.
Voilà, très intense. Et après, en effet, très tôt, elle soutient la révolution dans la violence, proche des Black Panthers, contrairement à Martin Luther King, qui prône la non-violence. Donc, elle aborde ces thèmes dans ses chansons. Donc, on va bien le vérifier tout au long de l'émission. Et côté vie privée, alors là, elle va se fâcher avec beaucoup de monde, elle va s'exiler. Enfin, je reviens dans le détail de tout ça dans l'émission. Mais tout d'abord, Françoise, tu vas intervenir pour nous parler donc de la ségrégation, si je me trompe.
Ah, la ségrégation, c'est le deuxième volet, Richard.
Bon, alors attaque par le premier.
Voilà, au moment où Nina connaît le succès, dans les années 50. Hein.
Voilà.
Que se passe-t-il dans le domaine artistique? Eh bien, elle connaît donc le succès et pourtant elle continue à vouloir se battre, avec à présent l'ambition de faire de son combat celui de tout un peuple. Elle veut faire de sa voix celle du peuple noir. Depuis la guerre de sécession, l'Amérique connaît plus que jamais la ségrégation et le KKK, le terrible Ku Klux Klan, continue de sévir et d'exercer la terreur en redoublant ses exactions contre les Noirs. Mais le 28 août 1963, dans ce monde marqué par l'esclavage et la haine, Martin Luther King fait un rêve de liberté et d'égalité. Les années 60 seront donc les années de l'utopie, mais aussi celles des revendications et de la violence. Alors dans le domaine artistique, ça se passe comment ? Eh bien, on cherche aussi à abolir les différences, à faire tomber la frontière entre culture populaire et culture avec un grand C. Le pop art se donne comme mission de hisser la culture populaire au rang de la grande culture. Abréviation de popular art en anglais, le pop art est né dans les années 50 au Royaume-Uni et ce n'est que 10 ans plus tard qu'il débarque aux États-Unis en réaction à l'expressionnisme abstrait. Comme on en avait parlé lors du premier volet de l'émission, après la Seconde Guerre mondiale, New York supplante Paris et reprend à son compte le rôle de leader dans la modernité. Mais en ce début de la guerre froide, la peinture américaine devient pour le gouvernement un enjeu politique et l'expressionnisme porté par l'école de New York est rapidement jugé trop élitiste. Beaucoup ne se reconnaissent pas dans cette expression gestuelle des artistes dont on avait parlé, Pollock, qui revendique une liberté mais jugée trop narcissique. La figure du proue du pop art, on en a tous entendu parler, c'est Andy Warhol. Il naît dans les mêmes années que Nina, en 1928, et comme elle, remet en cause le rêve américain. En s'en prenant, comment ? À la société de consommation. Il dénonce son impact sur notre comportement quotidien. Publicité, magazines, bandes dessinées, affiches, télévision deviennent à la fois la cible et les nouveaux moyens d'expression pour les artistes qui s'approprient ces innovations industrielles, la critique, la sérigraphie par exemple. D'un abord simple et accessible, dès les débuts du mouvement, le public est tout de suite séduit. Pourtant, il est lui-même directement pris à partie dans cette remise en question du matérialisme. Les produits de consommation sont modifiés par la couleur, le format, ou encore intégrés au tableau par des collages. Même le principe d'unicité d'une œuvre d'art, de son identité, est remis en cause par l'utilisation de la répétition. Alors avec le pop art, l'art avec un grand A est mis à la portée de tous, devient accessible, se fait le porte-parole du plus grand nombre. N'était-ce pas aussi le vœu le plus cher de Nina, Richard ?
Merci Françoise pour ces explications.
Super, bravo.
Voilà, alors je me retourne vers Philippe maintenant qui va nous présenter le premier morceau.
Oui.
De Nina Simone.
Nina Simone, donc effectivement, dans les années 60, il y a beaucoup de choses qui changent et Nina va changer aussi pas mal puisqu'elle va quitter une maison de disques qui s'appelle Cockpix pour une autre qui s'appelle Philips et en 67, elle va quitter Philips pour aller chez RCA. Alors, je dis ça, c'est pas anodin, parce que pour un artiste, c'est important de trouver le label qui lui correspond, parce qu'à la même temps, il va pouvoir donc développer artistiquement ce qu'il sent. Il va être en pleine confiance avec les gens qu'il dirige, et assurer également la distribution, et bien évidemment aussi une rémunération, parce que n'oublions jamais ça. C'est donc également le cas pour notre fameuse Nina, qui à ce moment de sa carrière s'engage, comme tu l'as dit très bien, donc je ne vais pas le redire, de plus en plus dans les droits civiques, et qui se retrouve donc dans sa musique et dans ses textes. Donc pour illustrer cette période, j'ai pris un enregistrement de 1964, c'est son premier album pour Philips, ça s'appelle Nina in Concert, et je vous propose d'écouter Mississippi Goddam. Alors dans le texte, attention, Mississippi Burning, c'est un petit peu difficile parce que ça veut dire putain de Mississippi. Écrit et composé suite à l'assassinat d'Emmett Till, mais ça je pense que peut-être beaucoup de gens ont vu le biopic récent d'ailleurs au cinéma. Puis aussi l'assassinat d'une autre personne, Medgar Evers, une militante pour les droits civiques. Et puis la fameuse attentat de l'église de Birmingham qui avait tué malheureusement 4 enfants noirs. Je vous livre simplement quelques mots du texte. « Tout ce que je veux, dit-elle, c'est l'Église pour mon frère, mon peuple et moi. Oui, tu m'as menti toutes ces années. L'Alabama m'a tellement menti. Le Tennessee m'a fait perdre mon corps et tout le monde connaît le Dieu damné. » Ça fait fort quand même. Et elle finit par « Oh, putain de Mississippi !» L'enregistrement est capté donc dans la pinette de Juan les Pins d'Antibes, 24 juillet 65. Et là, donc, on va rentrer tout doucement dans la pinette d'Antibes, Juan les Pins, pour découvrir donc cet enregistrement Nina Simone à Antibes.
Mississippi Goddamn is our last tune we had some request for. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddamn. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. My people just about do. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. That's just the trouble.
Do so.
Washing the windows.
Do so.
Picking the cotton.
Do so.
We're just plain rotten.
Do so.
We're too damn lazy.
Do so. Communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. But my country is full of lies. We are all gonna die and die like
flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
Too
slow. Desegregation.
Too slow.
Mass participation.
Too slow.
Unification.
Too slow.
Do things gradually.
Too slow.
Will bring more tragedy.
Too slow.
C'était Mississippi Goddam, une chanson où elle exprime toute sa colère et sa rage. Et pour continuer, Nina Simone intervient donc dans des réunions publiques où elle espère que les Noirs pourront, par la lutte, former un État distinct. Et dans ses chansons, elle intègre des messages pour les droits civiques. Comme dans Strange Fruit que tu vas nous présenter, Philippe, elle dénonce le lynchage d'hommes noirs dans le sud.
Oui, donc effectivement, continuons avec cette chanson incontournable du répertoire de Nina Simone, mais il faut quand même rappeler que cette chanson a été créée par une autre énorme chanteuse, enfin énorme par le talent bien évidemment, une énorme chanteuse, Billie Holiday, et ensuite après qui a été reprise par plein, enfin pas mal en fin de compte, pas mal de chanteurs et chanteuses, mais enfin c'est vrai qu'il fallait quand même avoir une certaine âme pour arriver à bien la chanter. Là, je l'ai extrait donc d'un enregistrement de 1965, qui s'appelle Pastel Blues. Je vous encourage vraiment à télécharger l'intégralité de ce, ou l'acheter, enfin je ne sais pas, de ce records, parce que vraiment, tous les titres vous tirent les larmes du corps, c'est d'une incroyable sensibilité. Donc cette chanson, il y a d'autres versions, celle aussi de Joss James, je vous propose de l'écouter aussi, c'est plutôt bien, et puis une aussi de chez nous, à moitié, celle de Dizzy Bridgewater. Donc le Strange Fruit, bien évidemment, c'est les Noirs que l'on pendait, comme tu l'as dit, aux arbres, bien souvent, pour ne pas dire très souvent, simplement parce qu'ils étaient noirs, ce qui est près de loin ressemblait à des fruits étranges. Je vous renvoie aussi pour cette image terrible, un film d'Alan Parker de 1988, Mississippi Burning. Mais pour l'instant, écoutons dans Strange Fruit avec Nina Simone.
Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia. Clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot. Here
strange.
C'était Strange Fruit, magnifique.
Il faut avouer quand même que c'est... Il nous faudrait presque un petit blanc, là, pour... C'est dur de passer à autre chose, hein, parce que c'est tellement exceptionnel.
Une sacrée voix, là. T'as cette voix, dis donc.
Il y a une intensité, il y a un feeling, enfin...
Ouais, il y a quelque chose.
Une larme, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est...
Tout à fait. Réfléchissons, on va trouver d'ici la fin de l'émission. Voilà. Et nous continuons notre émission Cala Jazz sur Nina Simone. Avec Philippe, Dédé, Françoise, nous sommes maintenant à la fin des années 60. C'est une vie d'errance et de problèmes qui commence. Elle est capricieuse, ingérable. Elle se sépare de son mari. Ah, son mari, c'est un peu un sale type qui en veut beaucoup à son argent parce que c'était son manager. Donc, il la faisait beaucoup travailler. D'ailleurs, elle dira plus tard qu'il la battait. Aussi, en 1970, elle part seule pour la Barbade. Mais comme il continue à gérer ses revenus, elle revient une première fois aux États-Unis. Elle apprend qu'elle a de l'argent au fisc. Elle retourne à la Barbade. Elle y reste en entretenant une liaison avec le Premier ministre. Et puis, sur les conseils d'une amie, elle part au Liberia avec sa fille pendant 2 ans, où elle va très peu jouer en public. Elle revient là aux États-Unis, où elle va reprendre des enregistrements, mais avec moins de succès, surtout parce que son engagement inconditionnel se retourne contre elle. Les producteurs lui reprochent d'être trop engagée, surtout vis-à-vis d'un public blanc qui va se détourner d'elle. Alors, le morceau que tu as choisi, qui est enregistré à Montreux, je crois que ça en dit long sur son état à ce moment-là. On présente le nouveau.
Oui, tout à fait. Donc, mais avant de vous présenter ce morceau, une toute petite précision. Donc, c'est important ces périodes-là parce qu'en 1974, à peu près, elle quitte RCA pour un autre label. Donc là aussi, c'est toujours important quand un artiste quitte un label pour un autre. Et elle va enregistrer un seul album qui va s'appeler Baltimore. Avec RCA. Au total de cette période, en fin de compte, c'est une vingtaine d'albums, dont beaucoup de live. Où elle va revisiter en fin de compte son répertoire. Et comme tu le dis, Ali, à titre personnel, il y a quelques soucis. Alors, séjourne à Paris, tu l'as très bien dit. Mais pourquoi je me reviens sur cet événement dans les années 80 ? Parce que j'ai eu l'occasion, à titre personnel, de l'écouter au New Morning. Et il est vrai que nous n'étions pas nombreux ce soir-là. Elle était accompagnée, si ma maman ne me fait pas défaut, par Sidney Thiam aux percussions, Sylvain Marc à la basse et Paco Seri à la batterie. Alors c'est sûr que c'est pas la période la plus créatrice de sa carrière, certainement aussi, comme là aussi tu l'as mentionné, pour des raisons et des problèmes de vie personnelle, mais pourtant elle est, et elle restera certainement dans l'histoire de la musique américaine, une des plus grandes chanteuses, une des plus belles voix et certainement une des pianistes les plus intéressantes. Donc comme tu l'as dit, je vous propose donc de revisiter là, à partir de maintenant, quelques-uns de ses titres, enregistrés dans différents lieux, différents concerts et... Là, nous partons à Montreux, au Montreux Jazz Festival. On est en 1976. Nina chante Star, qui est une magnifique chanson qui a été reprise en français par une grande artiste française qui s'appelle Françoise Hardy. Et je vous encourage vraiment à écouter le texte qui, grosso modo, dit que être star, c'est vraiment pas forcément une si belle vie que ça, et pour autant sans tomber dans le pathos. Donc Nina Simone, Stars.
If you hear a story, people lust for fame like athletes in a game. Break their collarbones and come up swinging. Some of them are crowned, some of them are downed. Some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives inside cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are before the world is done. done as a dirty job. Later on, someone will say you've had your day. Now you must make way. Don't they always? But you'll never know the pain of using a name you never owned. The years of forgetting what you know too well, that you who gave the crown have been let down. You tried to make amends without defending. Perhaps pretending you never saw the eyes of young men at 25 who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. Make it when they're old. Perhaps they have a soul they aren't afraid to bear. Perhaps there's nothing there. But anyway, that isn't what I meant to say. About a story, since we all have stories, but I can't remember it anyway, so I'll tell about the mood that's in the United States today and permeating even Switzerland. It goes, continue anyway until I get it together. Some women have a body men will want to see, so they put it on display. Some people play a fine guitar. I could listen to them play all day. Anyway, I'm trying to tell my story. Janice Ian told it very well. Janice Joplin told it even better. Billie Holiday even told it even better.
C'était Star qui reflète ce qu'elle vit à ce moment-là, la gloire déchue, la solitude. Elle arrive du Liberia où elle a très peu joué et cette reprise en public est très difficile pour elle. Elle chante et elle souffre simultanément. Mais ça donne une puissance à son interprétation dans ces années-là qui est assez incroyable. On est d'accord, Philippe ?
Ah oui, tout à fait. Enfin, moi, quand je l'avais vue, enfin, elle souffrait vraiment. Quoi. Il y avait une souffrance sur ça. Ah, oui.
D'accord. Ouais. Et là, sa carrière décline, elle va payer, bien sûr, le prix de ses engagements politiques, sa vie d'errance va continuer. D'abord, elle est arrêtée, puis relâchée rapidement parce qu'elle ne voulait pas payer ses impôts en protestation contre la guerre du Vietnam. Elle est toujours en train de se battre. Elle part en Europe, en Suisse, puis aux Pays-Bas. Puis après, elle a séjourné un peu à Paris. Je pense que c'est là où tu as
pu la voir. Oui, c'est à cette période que j'ai eue, dans les années 80.
Mais c'est des représentations un peu intimes, hein, la théâtre publique.
Oui. On n'était pas beaucoup, j'ai un souvenir. Pourtant, c'est pas jeune, hein, mais on n'était pas beaucoup dans la salle.
Et c'était, non, mais toutes les tournées qu'elle faisait en France, à l'époque, c'était des petites salles.
Ah, bah le New Morning, c'est pas le Carnegie Hall.
Voilà. Et puis, elle va aller en Angleterre, elle enregistre un album. Mais en même temps, on va diagnostiquer sa bipolarité. Donc c'est un peu sur le tard. Elle est même hospitalisée. Et où elle reconnaîtra d'ailleurs aimer la violence physique lors de ses crises. Et puis, miracle, on va dire, la pub de Chanel qui, en 1987, on l'avait dit, reprend son tube « My Baby Don't Care ». Ça lui redonne une popularité. Sa carrière repart de l'avant. Même si elle apprécie pas ce morceau parce qu'il avait été rajouté sur son premier album, si tu te souviens, en 1958. Tout à fait. Pour le compléter, mais elle est obligée de le jouer, elle va le reprendre incessamment pendant quelques années, dans plein de concerts, là où elle reprend justement la popularité. Et puis, elle va, si je ne me trompe pas, elle va reprendre aussi des succès francophones qu'elle avait commencé à enregistrer dans les années 60. Tu vas nous en parler, tout à fait. On commence par lequel ?
Oh, bah, on va commencer par My Way, par exemple. Ah. Donc, My Way... qui a été enregistré. Moi, je vous propose là un enregistrement donc, de 1982. C'est à la télévision française, l'ancienne télévision française, sur les plateaux de la télévision. Donc, on va y aller. On va y aller tout simplement. On va écouter My Way. Si My Way... Attends, avant de lancer, j'ai appris quelque chose. Je ne sais pas si vous le savez. Okay. Sur Claude François, ce qui n'a rien à voir, mais je la cite quand même là. J'ai appris quelque chose, c'est que Claude François, semble-t-il, s'est retrouvé un jour dans un hôtel à payer sa note aux États-Unis, et à côté de lui, il y avait Frank Sinatra, qui faisait payer la sienne.
Il ne se connaissait pas.
Il ne se connaissait pas, et il paraît que Claude François n'a jamais osé se présenter à Frank Sinatra pour lui dire « c'est moi qui ai écrit My Way ».
Ah, il avait déjà écrit ça.
Oui, il a déjà écrit. Voilà, je referme la parenthèse, mais j'ai appris. Voilà. Mais restons sur Nina Simone, My Way, sur un plateau de télévision à Paris, bien évidemment.
Oh, there were times
I ate it all and spat it out. I faced it all. That's why I have no fear, y'all. I need it my way. I've laughed, I've cried, I've had my fill, my share of losing. My dear, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a sly way, oh, never not me, I did it my way. It's a drama. And then again, too few to mention.
After my drama,
I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. My drama, what happened to it?
C'était My Way et vous êtes toujours sur Calade 100.9 dans votre émission Calade Jazz. Et nous continuons notre thème ce soir sur Nina Simone. Alors Philippe, deuxième morceau francophone.
Deuxième morceau francophone, bien sûr, de son répertoire. Ne me quitte pas du
Grand Jacques.
Du Grand Jacques, bien évidemment. Là, je vous propose de partir un soir du côté, là aussi encore, de Montreux. Sur les bords du lac Léman, nous sommes en 1990 et donc repénétrons dans ce qu'était encore le casino et là où étaient les concerts pour les nostalgiques de Montreux. Nina.
Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois coup de pourquoi le cœur de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour t'ouvrir ton corps doré de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pour Jack Brel, ne me quitte pas.
me quittes pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai histoire de se voir mort de n'avoir pas. Je te raconterai, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop beau. Il est paraît-il de terre brûlée, donne plus de blé qu'en meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'on s'y flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, Montreux et France. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
C'était Ne me quitte pas. Et nous arrivons dans les dernières années de sa vie, où elle s'installe définitivement en France, parce qu'elle a beaucoup de rancune avec les États-Unis, elle apprécie pas les présidents. Elle continue concert dans d'autres pays, où elle n'hésite toujours pas à défendre ses droits. Son travail est sur l'émotion, sa voix volcanique qui hurle sa colère pour dénoncer toutes ses inégalités. C'est une femme bafouée, volée. Elle laissait tout sortir dans sa musique. Mais c'était une femme de conviction et de combat. Elle restera libre de ses pensées, a passé sa vie à passer son message et dira même la concernant « On ne m'a jamais comparée à Maria Callas, mais je suis plus une diva comme elle que n'importe qui d'autre. Elle nous a transcendés et sa vie a été qu'un seul combat. » Alors Françoise, que proposes-tu pour illustrer toutes ces convictions ?
Eh bien, je vais revenir sur le problème de la ségrégation, comment elle s'exprime dans le domaine artistique. Car comme Nina, après avoir voulu se faire entendre, aujourd'hui les artistes africains, américains cherchent à s'affirmer en s'engageant dans une voie à portée plus universelle. Longtemps absent des musées, dédaigné par les collectionneurs, oublié des milieux officiels, l'expression artistique se fait l'écho d'un pan essentiel de l'histoire américaine, oscillant entre retour sur le passé et puis un regard porté sur la création contemporaine. Avec la volonté de trouver leur place dans une histoire de l'art dont ils ont été évincés, apparaît comme métaphore de la ségrégation subie et dénoncée le terme de « color line ». Autrement dit, ligne de couleur, ligne de démarcation raciale. Mais je devrais plutôt dire réapparaît, parce que Frédéric Douglass, abolitionniste né esclave, un temps exilé en Europe, emploie le terme de color line dès 1881 pour désigner la ségrégation apparue aux États-Unis à la fin de la guerre de sécession. En cette période, les artistes noirs ne sont acceptés dans les institutions que s'ils s'inscrivent dans la tradition romantique et classique européenne, comme on l'avait vu la dernière fois. Et il faut laisser passer le premier conflit mondial pour que dans le contexte de l'effervescence culturelle due au jazz, une tentative de synesthésie entre les arts voit le jour sous le nom de la Renaissance de Harlem. Aaron Douglas en sera une figure majeure. Né à la toute fin du 19e, il connaît la célébrité comme muraliste. Sur grand format, il joue de contraste comme le rythme avec le jazz. Alors, comment ne pas penser aujourd'hui à Basquiat, qui, vivant au tempo du hip-hop, intègre dans son œuvre le principe du sampling, qui consiste à réutiliser un extrait d'une autre musique dans une composition. Et puis arrive la grande déception. Les plus chanceux de ces artistes noirs accéderont au programme d'aide mis en place par l'État pour leur permettre de survivre dans une économie dévastée. Comme nous l'avons déjà évoqué la dernière fois, c'est le réalisme social qui sera le moyen de s'exprimer. Par contre, si un noir est représenté, c'est toujours à travers le regard du blanc. Traité de nigga au milieu de nigger, les blancs les résument à un adjectif colored ou black. Et pourtant, en 1964, le Civil Rights Act devait mettre un terme au moins légal à toute forme de discrimination, ce dont rêvait déjà Martin Luther King. Mais le racisme persiste. Alors on déplace l'attaque en s'en prenant aux mots. Et dans les années 70, le terme d'afro-américain est adopté, jusqu'à l'aide pour qualifier leur coiffure à la Angela Davis. Mais aujourd'hui, ce terme est disqualifié, et ce depuis les années 80, où les États-Unis aimeraient imposer la dénomination d'Africain-Américain, Afro-Américain étant devenu péjoratif par l'utilisation de l'abréviation. Mais les artistes plasticiens ne semblent pas concernés. Et c'est avec dérision qu'ils traitent de cette violence latente pour défendre et imposer leur identité raciale. Alors ils ont recours à l'histoire culturelle en créant un drapeau africain-américain aux couleurs des deux continents, en faisant allusion aux spectacles musicaux américains du 19e quand les chansonniers devaient se noircir le visage pour paraître en scène. Et c'est avec humour et ironie qu'ils détournent la publicité, comme Warhol l'a fait. Mais cette publicité qui vante les mérites de crèmes de dépigmentation ou de produits capillaires défrisants, transformant en personnages monstrueux celles et ceux qui, en quête d'identification, succombent à tenter de ressembler aux archétypes de beauté imposés.
Merci.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci beaucoup, c'est bien. Françoise.
Mais peut-être préciser pour nos auditeurs que Françoise n'est pas avec nous dans le studio. Voilà. Elle est en ce moment à New York. Elle est en ce moment à New York. mais elle va bientôt rentrer à Paris. Voilà. Mais en ce moment, elle séjourne de là-bas. Donc on la remercie parce que forcément, il y a un décalage horaire terrible. Merci, Françoise.
Mais de rien, mon Philippe.
Bon, Philippe, on va te laisser continuer.
Bon. C'est vrai ou pas?
On ne sait pas, on ne peut pas vérifier. On sait qu'elle est au téléphone, mais on ne sait pas où elle est. Voilà.
Non, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, la voix n'est pas tout à fait la même qu'au studio.
Voilà. Mais voilà. Ceci explique cela. Ouais. Alors, Philippe.
Ben, on va continuer, donc on va retourner à Montréal. Tiens, ça tombe bien, on n'est pas très loin de New York. 1992, et j'ai choisi cet enregistrement exprès pour mon Dédé.
Ah, bien.
C'est A Put a Smile on You, bien évidemment. Hyper connu, hyper tout ce que l'on veut. Mais cette fois-ci, à la mode blues. Donc, pour toi, mon Dédé, le même titre, mais forcément pas studio, mais concert. Et vous allez sentir sa blues pas mal. On est en 1992, donc toujours à Montréal, bien évidemment, au jazz.
And it has not been brought to Canada yet. You've seen it? Huh? You have it? Okay. In France, in England, in the States, it's there. Et un jour, il sera ici. Dans français, en français, il s'appelle Ne me quittez pas. En anglais, il s'appelle I Put a Spell on You.
C'était I Put a Spell on You.
Oui, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle revisite en concert vraiment tous ces grands thèmes. Ça a rien, enfin, ça a rien à voir, si, mais pas, ça s'éloigne vraiment du studio, quoi.
Ah ben, c'est vraiment ce qu'on appelle la musique, parce que oui, la voix, tout derrière.
Ça revisite à fond.
Ah ouais, c'est vraiment quelque chose
d'extraordinaire. La DD s'est fait plaisir, je crois.
Oui, le guitariste, non mais pas que, parce qu'il y a l'ensemble, quoi, hein, c'est clair.
Hein. Ah, puis ça monte bien, ça pèse bien.
Ah oui.
Alors finalement, c'est la maladie, un cancer du sein, qui aura le fin mot de la vie incroyable de cette femme qui s'est battue tout au long de sa carrière et qui a dit « Je mourrai à 70 ans parce qu'après ce n'est que de la douleur ». Elle va nous quitter en avril 2003 à 70 ans. Voilà, à Carré-le-Rouet, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Fini donc cette voix surnaturelle, très compliquée à reprendre, avec cette craquelure inimitable. Et alors, pour finir, Philippe, quel hommage.
Pour finir, on pouvait pas finir que par cette chanson « Feeling Good ». Donc, on va faire simple. Pourquoi cette chanson? Parce que vraiment, elle avait vraiment le bon feeling à tout point de vue. Donc, « Feeling Good », version studio cette fois-ci, pour rester dans le texte, comme on dit.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
C'était Feeling Good, mais je vois que nous allons devoir nous quitter après cet hommage à Nina Simone, en espérant, chers auditrices et auditeurs, que cela vous a plu, bien sûr. Philippe, je crois que tu as quelques annonces.
Oui, je voudrais faire quelques annonces, effectivement, juste avant de nous quitter. Je rappelle que le 3 juin, nous inaugurons officiellement l'école de musique de Farin. Donc, ça va se passer de 15h à 17h30 pour le public. Ensuite, après, il va y avoir les officiels qui vont être là. C'est au château, bien sûr, au château Boucher. Il y aura bien sûr des buffets, il y aura tout ce qu'il faut. Et il y aura un très grand concert de 70 musiciens avec l'Harmonie de Belleville qui jouera en collaboration avec l'Harmonie, donc l'école de musique de Farin. Donc ça, c'est la première annonce pour Farin. Ensuite, après, je voudrais rapidement faire la promotion d'un big band qui va jouer dans la région. C'est un big band lyonnais qui vient pour 3 concerts ici. Il s'appelle le Fils Gap et il va jouer au château de Pramenou. C'est à Saint-Nizier-d'Azergues. Il va y jouer le 27 mai et, et il va y jouer aussi le 24 juin. Ce sont des samedis, c'est aux alentours de 20h.
Mais c'est pas toi qui es dans ce...
Et il jouera également.
Dis-le franchement.
Et il jouera également. J'ai la chance d'avoir le micro, alors je lui dis.
Oui, non, mais dis que tu joues.
Ah oui, mais ça bon. Fait un peu. Bon. Et il jouera le 6 juillet aussi à Villeneuve, c'est pas très loin. Donc il y a 3 dates. Venez voir ce Big Band, je vous assure, c'est pas tellement parce que j'y joue, mais enfin, c'est, vrai, c'est vraiment sympa. Quoi. Avec
Villeneuve,
c'est celui qui est à côté de Villefranche.
Oui, c'est ça.
Ah, dans l'Ain, juste
dans
à côté.
Oui, c'est à côté de Farin, oui. Tout ça, je les ai donné les dates donc, de 6 juillet. Au mois de juillet aussi, il y aura les musiciens de l'école de musique, de l'atelier jazz de Farin aussi, qui jouera dans ce même festival aussi à Villeneuve. Voilà, et puis une autre date encore peut-être, le 30 juin, toujours l'école de musique de Farin, j'y peux rien, j'y travaille aussi, donc j'ai le micro, donc j'y vais. Donc le 30 juin, dans un célèbre restaurant de Farin, où on y mange très très bien, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là l'école de musique organise le 30 juin une très belle soirée avec là aussi les élèves des ateliers rock et du jazz. Voilà, j'ai fini, merci de m'avoir laissé la parole.
Je t'en prie, merci Philippe, merci Dédé, merci Françoise.
Merci à tous.
À bientôt.
Alors,
espérant qu'il n'y ait pas trop de neige à New York. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter le dimanche à midi et en podcast sur Radio Calade 100.9. Voilà, merci à tous, au revoir à la prochaine fois.
D'accord, au revoir.